Chapitre 2 Le fils du martyr. C'est un adolescent plein de grâce et de vivacité qui fait résonner de son pas alerte et léger l'atrium en se dirigeant vers la salle du milieu. Il marche si vite qu'à peine aurons-nous le temps d'esquisser son portrait avant qu'il soit arrivé. Il a environ 14 ans, il est grand pour son âge, sa démarche est élégante et sa contenance a déjà quelque chose de mâle. Son cou est nu, ses membres sont développés par un exercice journalier. Sur ses traits ouverts et francs, on voit l'indice du cœur ardent et généreux. Son large front, que des boucles de cheveux bruns couronnent comme une gracieuse auréole, rayonne d'intelligence. Il porte le vêtement en usage chez les jeunes gens, la courte prétexte qui se termine au-dessus du genou, et la bulle d'or des adolescents est encore suspendue à son cou. Un vieux serviteur le suit, portant un paquet de papier et des rouleaux de vélin, et cette circonstance indique que le jeune homme revient de l'école. Pendant que nous l'avons contemplé, il a reçu les baisers de sa mère et est venu s'asseoir à ses pieds. Elle le regarde en silence, comme pour lire sur son visage la cause de son retard, car il s'est fait attendre une grande heure. Mais les yeux du fils rencontrent avec un regard rempli de tant de franchise le regard maternel et lui sourit avec tant d'innocence que le nuage disparaît du front de la mère et le dialogue suivant s'engage entre eux. « Qui vous a retardé aujourd'hui, mon bien cher enfant? Vous n'avez eu, j'espère, aucun accident sur votre chemin ?»« Oh non, je vous assure, ma très douce mère. Au contraire, il ne m'est rien arrivé dont je doive me féliciter. » Cela est si vrai que j'hésite à vous le conter. » L'enfant s'arrêta comme s'il hésitait, puis, souriant d'un radieux sourire, il continua. « Je peux vous le dire, vous savez que je ne suis jamais heureux et que je ne puis dormir en repos sans vous avoir raconté ce que j'ai fait de bien ou de mal dans la journée. » La mère sourit à son tour, comme pour chercher quel mal son bien-aimé fils pouvait faire. J'ai lu l'autre jour que les Scythes mettaient chaque soir dans une urne une pierre blanche ou une pierre noire selon que le jour leur avait été malheureux ou propice. Si je les imitais, je marquerais avec la pierre blanche les journées où j'ai eu l'occasion de vous raconter ce que j'ai fait, avec la pierre noire celle où cette occasion m'a manqué. Aujourd'hui, j'hésite pour la première fois et je ne sais si, en conscience, je dois tout vous dire. » Le cœur de la mère bat-il plus vite que de coutume, comme si pour la première fois il s'ouvrait en l'inquiétude, ou bien une plus tendre sollicitude brilla-t-elle dans ses yeux? Toujours est-il que l'enfant, lui prenant la main et l'approchant de ses lèvres, la baisa tendrement et reprit en ces termes. « Ne craignez rien, mère bien-aimée, votre fils n'a rien fait qui puisse vous causer du chagrin. » « Dites-moi simplement si vous désirez savoir tout ce qui m'est arrivé dans la journée ou seulement la cause de mon retard. »« Dites-moi tout, mon cher Pancratius, » répondit-elle alors. « Rien de ce qui vous concerne ne saurait m'être indifférent. »« Très bien, je commence. Le dernier jour que je devais passer à l'école a été béni et rempli cependant d'étranges incidents. D'abord, j'ai été couronné pour une dissertation que notre bon maître Cassianus nous avait donné pour composition ce matin, et cela m'a conduite à de singulières découvertes. Le sujet était « Le vrai philosophe doit toujours être prêt à mourir pour la vérité. » Je n'ai jamais rien lu d'aussi froid et d'aussi insipide, j'espère qu'il n'y a pas de mal à dire cela, que les compositions de mes camarades. Pauvres amis, ce n'est pas de leur faute. Quelle vérité possède-t-il et comment mourir pour de vaines opinions? Mais pour un chrétien, quel thème fécond et précieux à développer! Mon cœur tressaillait et mes pensées étaient de feu. Pendant que j'écrivais, vos leçons et les exemples de notre foyer me revenaient à l'esprit. Le fils d'un martyr sentait son sang bouillonner dans ses veines. Mais quand vint mon tour de lire ma composition, je sentis que mes pensées allaient se trahir. Dans la chaleur du débit, le nom de chrétien remplaça sur mes lèvres celui de philosophe et j'appelai la vérité de son nom, la foi. À ma première inadvertance, Cassianus tressaillit. À la seconde, je vis une larme briller dans ses yeux. Il se pencha doucement vers moi et me dit tout bas « Soyez prudent, mon enfant, des oreilles méchantes vous écoutent. » « Quoi ? » interrompit la mère. « Cassianus est chrétien ? J'ai choisi son école pour vous parce qu'elle est la plus forte et la plus sage, et à présent, je remercie Dieu qui a guidé mon choix. Dans ces jours de danger et de crainte, nous sommes obligés de vivre comme des exilés sur notre propre terre, connaissant à peine les figures de nos frères. Si Cassianus avait proclamé sa foi, son école eût été désertée. Mais continuez, mon enfant. Est-ce que les craintes de votre maître étaient fondées ? Je le crois. Tandis que la grande partie de la classe m'écoutait sans remarquer ma méprise et applaudissait vivement ma dissertation, je vis l'œil noir de Corvinus fixé sur moi avec dépit, tandis qu'il mordait ses lèvres avec tous les signes de la colère. Et quel est ce Corvinus dont l'humeur est si irritable ? C'est le plus âgé et le plus robuste de nous tous. C'est aussi malheureusement le plus mauvais écolier de la classe, mais ce n'est pas de sa faute. Depuis quelque temps surtout, il semble fortement irrité contre moi, sans que je puisse comprendre la cause de sa malveillance. Vous a-t-il dit quelque injure ? Vous fit-il quelque mal ? Oui, et c'est là la première cause de mon retard. Au moment où, sorti de l'école, nous traversions la plaine qui côtoie le fleuve, il m'arrêta et me dit avec arrogance, en présence de plusieurs de nos camarades, « Pancratius, c'est sans doute la dernière fois que nous nous rencontrons ici. » Et il appuya avec intention sur ce mot. « Mais avant de nous séparer, nous avons un compte à régler ensemble. Tu as cherché dans nos classes à étaler ta vaine supériorité sur moi et sur les autres plus âgés et meilleurs que toi. J'ai vu ton regard hautain s'arrêter sur moi lorsque tu lisais ta pompeuse dissertation et j'y ai noté des expressions qui te trahissaient malgré toi et dont tu auras peut-être bientôt à répondre car tu n'oublies pas, je l'espère, que mon père est préfet de la ville. » La mère tressaillit légèrement. « Et qu'on prépare certaines mesures qui pourront te concerner personnellement. Avant de nous séparer, je veux prendre ma revanche. Si tu n'es pas indigne de porter ton nom de Pancratius, Pancratius signifie « propre aux exercices du corps ». Terminons notre débat en employant des armes plus viriles que le style et les tablettes dont nous nous sommes servis jusqu'ici. Luttons corps à corps ou combattons avec le ceste. Je suis impatient de t'humilier comme tu le mérites devant les témoins même de tes triomphes insolents. » La mère, effrayée, se penchait en avant, comme pour mieux entendre, et respirait à peine. « Et qu'avez-vous répondu, mon cher enfant ? » demanda-t-elle. Je lui dis doucement qu'il se trompait. Jamais je n'avais sciemment causé de la peine à mes camarades, ni voulu étaler ma supériorité sur eux. « Quant à ce que vous me proposez, Corvinus, ajoutai-je, j'ai toujours refusé de m'engager dans ces sortes de combats. Ils commencent par une simple lutte d'adresse et finissent envenimés par des sentiments de colère, de haine et de fureur. Aujourd'hui, comment engagerai-je une lutte quand vous venez de nous déclarer que ces mauvais sentiments sont dans votre cœur ?» Nos camarades avaient fait le cercle autour de nous, et je lisais clairement dans leurs regards qu'ils étaient tous contre moi, frustrés de l'espoir qu'ils avaient eu d'assister à ces jeux cruels dont ils font leur délice. J'ajoutai donc gaiement, « À présent, mes camarades, au revoir, puissiez-vous être tous heureux. Je vous quitte comme j'ai vécu au milieu de vous, en paix. » « Tu ne partiras pas ainsi !» s'écria Corvinus, devenu pourpre de colère. La figure de l'enfant rougit, sa voix hésita, il trembla, et retenant avec peine un sanglot, « Je ne puis continuer, je n'ose dire le reste. » « Je vous en prie, mon fils, au nom de Dieu, pour la mémoire de votre père, » dit la mère en posant sa main sur la tête de l'enfant, comme pour appeler sur lui les bénédictions du ciel, « Ne me cachez rien, je ne serai pas tranquille si vous ne me dites tout. Que vous dit ? Que vous fit ensuite Corvinus ?» L'enfant, soulagé par cette pause d'un moment, pendant laquelle une prière silencieuse était sortie de son cœur, reprit son récit. « Pas ainsi !» s'écria Corvinus. « Tu ne partiras pas de cette façon, lâche adorateur d'une tête d'âne. Tu nous as caché l'endroit de ta demeure, mais je te retrouverai. Jusque-là, reçois le gage de ma vengeance future. » En disant ces mots, il m'asséna un si violent coup de poing sur la figure que je chancelai, tandis que mes compagnons poussaient des acclamations sauvages. Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes, il interrompit un instant son récit, puis continua. Oh, mon sang bouillait à ce moment, mon cœur battait à se rompre, et une voix redisait à mon oreille ce nom de lâche. C'était sûrement un malin esprit. Je sentais ma force doublée par la colère, je me voyais saisissant mon injuste agresseur à la gorge et l'étendant sur la terre. J'entendais les cris d'applaudissement accueillir ma victoire. Ce fut la plus grande tentation de ma vie. Jamais la chair et le sang ne livrèrent à mon âme un combat plus acharné. Puisse-t-il, ô mon Dieu, ne jamais avoir sur moi une si terrible puissance ? Et que fîtes-vous, mon bien-aimé fils ? Demanda avec anxiété la mère tremblante. L'enfant répliqua : Mon bon ange vainquit le démon. Je me rappelai notre béni sauveur, entouré d'ennemis furieux dans la maison de Caïphe, frappé à la face, et cependant doux et pardonnant à ses ennemis. Pouvais-je tenir une autre conduite ? Je tendis la main à Corvinus et lui dis : Je souhaite que Dieu vous pardonne aussi complètement que je le fais. Puisse-t-il vous combler de ses bénédictions ? Cassianus arriva en ce moment même, il avait tout vu, et, à son aspect, le petit groupe se dispersa. Je le priai au nom de la commune foi, avouée maintenant entre nous, de ne pas punir Corvinus de ce qu'il m'avait fait. J'obtins sa promesse. « Et à présent, ma très douce mère, » murmura l'enfant d'une voix caressante, en posant sa tête sur les genoux de sa mère, « ne pensez-vous pas que j'avais raison d'appeler cette journée un heureux jour ?